Bonjour Claire Paumet.
Bonjour.
Alors je sais pas si je dois vous appeler Claire Paumet ou Pomme, parce que le nom de scène c'est Pomme, mais votre vrai nom c'est Claire Paumet. Donc
quand on se parle comme ça, on peut se parler avec nos prénoms. C'est cool quand même.
Je dirais Claire alors.
Ouais.
Pomme, c'est vous qui l'avez choisi, c'est votre surnom, donc
oui.
Votre nom de scène.
Oui, c'est moi qui l'ai choisi parce que Paumet, mon nom de famille appelait à ce surnom quand j'étais au collège et que mes amis m'appelaient comme ça.
C'est pas vilain.
Non, c'est Mimi.
Temps. C'est même très Mimi.
C'est Mimi, c'est vrai que des fois je me dis quand j'aurai 80 ans et que je m'appellerai Pomme, je sais pas trop comment je le vivrai. Mais
vous verrez bien,
on verra.
Encore.
Non, mais ça me ressemble.
Bon, alors là, vous nous accueillez dans un studio, hein. On s'est déplacé, on est sorti de la maison de la radio pour venir vous voir.
Malgré la grève,
malgré la pluie, malgré le froid, etc. Et on est dans un studio. Alors je crois que c'est le studio noir, hein. Quand on est arrivé, c'était le studio noir. Et alors, c'est un bazar d'instruments dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites ici ?
Je fais les répétitions de ma tournée qui commence très bientôt. Et donc, j'ai pour la première fois de ma vie un groupe. Là, j'ai un groupe de musiciennes. Donc, on est trois avec une batteuse et une bassiste claviériste. Et les deux chantent hyper bien. Donc, il y a pas mal de chœurs. Et du coup, voilà, comme c'est ma première fois sur scène avec d'autres musiciens, musiciennes en l'occurrence, j'ai beaucoup d'heures de répétition pour appréhender ça. J'en ai fait beaucoup à l'automne et là j'en ai encore beaucoup.
Pour préparer donc la tournée.
Exactement.
Qui va commencer dans toute la France dans quelques jours. Comment on prépare une tournée ? Des répétitions donc, mais les répétitions dans un studio, surtout que c'est un studio d'enregistrement, c'est pas tout à fait la même chose que d'être face à un public.
Alors, non.
Ça veut dire quoi en fait préparer une tournée ?
Il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est de chercher les musiciens ou les musiciennes et de trouver les personnes qui correspondent à ce dont on a envie en termes de son, parce que les gens ils jouent pas tous pareil, ils jouent pas tous le même style de musique et tout. Une fois qu'on a trouvé, on fait des répétitions dans des studios un peu comme ça, qui sont des studios plus d'enregistrement.
Enfin, là, on est très isolé.
Studios de répète, ouais, vraiment. Il y a un système de son et tout, mais c'est pas en condition de scène. Et après, il y a une résidence, qui est une résidence pour le coup dans une salle de concert, où là, on met en place la scénographie, les costumes, les lumières, le son en façade et tout. Et ça, c'est juste avant le début de la tournée, du coup.
On brûlera toutes les dés en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi.
Vous avez fait déjà une tournée en 2018, après votre premier album, Claire, Paumet. Quel souvenir vous avez de cette tournée-là, la première ?
C'était même une tournée qui a commencé en réalité en 2015, parce que j'ai commencé en fait 2015-2016, j'ai fait beaucoup de premières parties, jusqu'à fin 2017. Et après, en 2018, j'ai fait ma première tournée en tête d'affiche, mais ça s'est enchaîné entre les premières parties et la tournée du premier album. Il n'y a eu aucune pause, donc j'ai fait une espèce de tournée de 4 ans à peu près. Donc c'est un peu flou, quoi. Il y a un mélange de premières...
Surtout quand on a 23 ans, une tournée de 4 ans, c'est déjà pas mal.
Ouais, j'ai commencé à 18 ans, du coup, à faire des premières parties. Et c'est un espèce de mélange dans ma tête de souvenirs de première partie et de souvenirs de concerts en tête d'affiche. Après, il y a des moments marquants quand j'ai joué à la Cigale ou au Trianon. Ou dans ma ville à Lyon, devant ma famille et tout, il y a des moments marquants. Mais c'est vrai que c'est tellement une longue période de ma vie que c'est difficile d'en retirer un moment où... pour moi, c'était mon quotidien depuis que j'ai 18 ans, quoi. Donc du coup, c'était plus une routine d'aller faire des concerts depuis 2015, quoi. Enfin, même avant.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimeriez pas reproduire de ce qui s'est passé pendant cette tournée de 4 ans, disons ? Des leçons que vous avez apprises
J'avoue qu'en ce moment, Il y a un truc par rapport à la gestion de la fatigue qui m'interpelle beaucoup et je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup les artistes parce que c'est assez tabou en fait de parler de ça quand on est un artiste parce qu'on a un métier qui fait rêver les gens et qu'on a le métier idéal pour beaucoup de gens et en fait du coup on n'a pas trop le droit de se plaindre ou de dire qu'on est fatigué ou qu'on en a marre et c'est vrai que j'ai pas fait assez de pauses je pense dans les 4 dernières années et j'ai beaucoup de mal à faire des pauses Je pense que s'il y avait une leçon que je devais appliquer, parce que je commence à l'intégrer, mais c'est difficile à appliquer, ce serait ça, ce serait prendre plus de temps. Parce que mine de rien, c'est vrai que entre mes 18 ans et mes 23 ans, du coup, ma vie, c'était la tournée et ça empiète beaucoup sur ma vie sociale quand même.
Vous aimez bien être sur scène, Pomme ?
J'adore.
Ou... Ouais.
Ouais, j'adore.
C'est pas un passage obligé, le rapport au public direct, c'est
quelque chose j'adore.
De grisant.
J'adore, je préfère même la scène au studio d'enregistrement parce que je trouve que c'est moins figé, que c'est moins parfait et que c'est moins stressant du coup parce que on n'est pas en train de graver quelque chose dans le marbre, on est en train de faire quelque chose qui bouge, où il y a une interaction avec les gens et en fait chaque concert est différent vraiment. Et moi je vivais ça en plus fois mille parce que j'étais toute seule donc j'avais aucune règle. Pour le coup je répétais pas vraiment, moi c'est nouveau pour moi de faire des journées de répète au studio. Parce que quand j'étais toute seule, je répétais pas, du coup j'allais et je faisais mon truc et c'est très, très libre en fait, c'est ça que j'aime beaucoup sur scène. Donc j'espère garder ça avec les musiciennes, mais je pense que oui. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour pouvoir être tellement carré qu'après on pourra s'amuser.
Une fois que vous êtes rodé, que vous avez bien travaillé, ouais. Vous pouvez vous libérer, bah vous pouvez vous lâcher quoi.
Carrément.
Alors parlons un peu musique, est-ce qu'on écoutait de la musique chez les Paumet ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Mes parents, ils écoutaient beaucoup de chansons françaises, de variétés. Ma mère, elle aime beaucoup Véronique Sanson, France Gall. Mon père aime beaucoup Michel Polnareff, Charles Aznavour. Donc des choses de leur génération, en fait, que j'écoutais moi aussi. Julien Clerc. Et en fait, ils nous ont aussi, mes frères et sœurs et moi, inscrits au solfège et à un instrument de musique et tout. Donc on a tous eu une formation.
C'est le violoncelle.
Ouais, exactement. Et on a tous eu une formation de solfège et d'instruments de musique, donc voilà, on a tous chanté, on a tous écouté de la musique, joué un peu de musique. Après, c'est pas du tout leur métier, c'est pas, mes parents sont pas du tout musiciens de profession, mais voilà, on baignait un peu en tout cas dans les disques et dans la musique.
Et est-ce que ce sont des sources d'inspiration pour vous aujourd'hui, des références que vous avez écoutées quand vous étiez petite?
Moi j'aime beaucoup, j'aime toujours.
En famille?
Ouais, j'aime beaucoup Michel Polnareff, je l'aime, enfin, en tout cas cette période de Marie-Lou, Lettre à France et tout ça, les années 70 et je sais pas, son espèce de culot et de bizarrerie, ça me fascine beaucoup, je l'aime beaucoup. Après, voilà, c'était une époque qui n'est plus celle qu'on vit maintenant, mais j'aime beaucoup les disques qu'il a fait à cette époque-là, et je trouve que c'est un espèce de virtuose, en fait. Et je trouve que dans les mélodies, dans les thèmes et tout, il y a un truc qui me touche beaucoup. Après, moi, j'étais allée chercher d'autres artistes par moi-même, j'ai découvert Barbara, j'ai découvert des chanteuses de folk, comme John Baez, Emilio Harris et tout ça que j'écoutais plus moi dans ma chambre quoi.
Et de fait qu'on retrouve quand on
oui,
vous écoute
plus,
hein,
Pomme, peut-être plus que
entre
Michel.
Barbara et la folk en effet avec votre auto-harpe
oui.
Qui est typiquement un instrument qui accompagne la folk. Est-ce que vous diriez que vous faites plutôt de la chanson française, de la variété? Est-ce que pour vous ça a un sens, ça a une définition de dire l'un ou l'autre, une différence?
Bah moi j'aime bien me dire que ce serait cool qu'on puisse pas trop définir comme ça, les gens pourraient tous faire la musique qu'ils veulent et puis si demain je voulais faire du rap, je pourrais faire du rap. Et en fait quand même on vit dans une époque qui est assez chouette pour ça parce que tout est un peu mélangé et que comme tout le monde peut mettre de la musique en ligne et faire de la musique chez soi, il y a beaucoup de styles qui sont nés en fait et de mélanges de styles et tout et du coup je trouve ça chouette de pas trop après je sais que parfois c'est pratique de pouvoir catégoriser et tout mais
on aime beaucoup ça en France hein,
voilà.
Mettre des gens
voilà.
Dans les cases
mais moi je suis pas forcément très fan de ça mais oui ça reste quand même je crois que ce que je sente ça reste très teinté de chanson française qui est un terme assez global et qui est pas trop réducteur donc c'est pas mal chanson française.
Est-ce que Pomme vous avez l'impression de faire partie d'une génération? Vous allez au Québec chanter avec Angèle, vous avez fait les premières parties de certains de nos autres chanteurs qui ont un peu plus d'années que vous, je pense à Ben Mazoué hein, en particulier, mais sinon L'Homme Pâle, Roméo Elvis, tous ces gens-là. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie du même clan, de la même génération de musiciens?
Pas vraiment L'Homme Pâle ni Roméo Elvis, mais les filles, oui, plus genre Angèle, Clara Luciani, tout ça, Fishback, Juliette Armanet, je plus. Pour moi, le clan, de toute façon, je vois ça hein, comme un truc un peu... Il y a un truc féminin dans, je sais pas, dans... Il y a un truc de soutien aussi vachement, je sais que voilà, je sais qu'Angèle elle partage beaucoup ma musique, il y a un truc où on va toutes les unes et les autres se voir en concert, on s'invite et tout, il y a un truc voilà que j'ai pas vraiment avec des garçons mais qui est un truc ouais un peu plus de comme si c'était ma bande de copines du lycée un peu quoi, sauf que c'est dans ma vie professionnelle mais on est toutes assez jeunes en fait et du coup on a toutes pareil un peu rongé nos dernières années d'adolescence pour faire de la musique donc du coup on est toutes un peu dans les mêmes problèmes et dans les mêmes dans la même vibe quoi.
Et même par rapport je suppose à l'industrie de la musique, c'est-à-dire vous enregistrez des disques, vous faites des tournées, ça c'est quelque chose de classique que toutes les générations ont fait avant vous et continuent manifestement forcément de le faire, mais l'industrie de la musique a beaucoup changé, en particulier vous vous êtes pas mal servi des réseaux sociaux, YouTube aussi, je suppose, vous lancez, ça marque une différence quand même entre vos aînés et vous.
Oui, oui, c'est vrai. Non, complètement, ça a complètement changé dans les 10 dernières années. Et disons qu'il y a certaines structures au sein de l'industrie de la musique qui se sont adaptées et d'autres moins. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, que parfois on essaie de faire un peu le plus soi-même parce que on se rend compte que parfois on a j'ai l'impression que les jeunes ont une conscience de la réalité qui est hyper affinée et que parfois l'industrie de la musique peut être un peu en retard par rapport à certains trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se mettent à s'autoproduire, qui se mettent à faire des contrats où ils sont 100% libres et tout, parce qu'en fait, ils ont tout compris et qu'ils savent. Alors qu'il y a certains contrats qui sont des contrats qu'on signe encore aujourd'hui avec des clauses qui sont là depuis 45 ans, quoi. Donc, du coup, il y a un décalage, mais il y a des choses qui bougent vachement quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs positifs et que ça évolue. C'est comme tout, ça prend vachement de temps, mais ça évolue tranquillement. Mais je pense que les artistes sont un peu en avance sur même très en avance sur l'industrie de la musique.
Ah oui?
Ouais. Ouais, beaucoup d'artistes qui. Mais rien qu'Angèle, je la prends en exemple parce qu'elle a une boîte avec laquelle elle produit tous ses clips, elle a produit son album, elle est productrice de toutes. En fait, c'est à elle, toutes ses chansons, ça lui appartient, elle a tout écrit, elle a tout composé. Elle a juste un label qui distribue et qui fait la promo de sa musique, mais c'est elle qui crée tout, qui paye tout.
C'est un modèle pour vous ?
Je trouve que c'est un modèle d'indépendance en tout cas. Après, je trouve ça chouette qu'à 22 ans, elle se soit dit, je vais créer une boîte et je vais faire ma musique et je vais être indépendante de tout le monde, quoi. Et je trouve que c'est la meilleure idée, quoi.
Pomme, vous parliez tout à l'heure de la formation que vous aviez eue, 5 ans de solfège, du violoncelle. Vous n'avez pas parlé des 10 ans de chorale à la Cigale de Lyon.
C'est vrai.
Et pourtant, la chorale, c'est important parce que c'est là que vous avez travaillé votre voix déjà.
Ouais,
aussi.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous retenez de ces années de chorale? On n'est pas seul dans une chorale quand même, donc il faut faire entendre sa voix et en même temps, il faut être au diapason des autres.
Ça a été un peu l'école de la vie pour moi. C'était et une école technique pour la voix. Et aussi un apprentissage de la vie en collectivité, de l'ouverture d'esprit, parce que j'ai beaucoup voyagé aussi avec cette chorale. On est parti dans plein de pays, en Chine, au Canada. Et du coup, c'est 10 ans de ma vie, de 8 à 18 ans. Donc c'est long et c'est les moments surtout où on grandit et où on apprend et où on se définit. Donc ça m'a appris beaucoup cette espèce d'esprit de, je pense, d'entraide un peu et de collectivité et de pas être dans un truc individualiste. Et d'être dans un truc d'échange, quoi. Moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens. J'ai longtemps animé des colonies de vacances aussi. J'étais animatrice de colo. J'ai le profil parfait de l'animatrice de colo qui a son BAFA.
Vous faites rire derrière.
Non, mais c'est vrai, c'est drôle.
Parlons de votre voix, puisque justement, voix qui se mettait au diapason des autres dans la chorale, mais que maintenant, qui émerge seule. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que vous avez effectivement une voix absolument magnifique. Quelle couleur a-t-elle, votre voix, pour vous, Pomme?
Une vraie couleur?
Ouais.
Je dirais bleu parce que c'est la couleur de mon album et que c'est ma couleur préférée. Et que je
ça
vois.
Ça me paraît un peu froid, moi, bleu pour vous.
Ça dépend. Ça dépend des bleus parce que le bleu, il y a beaucoup de teintes de bleu. C'est par vrai. Exemple, le bleu du ciel, il est très clair et il est plutôt apaisant. Le bleu de mon pantalon, il est très très foncé. Il est un peu triste.
Un bleu nuit.
Il est un peu triste, ouais. Mais. Ça serait un bleu comme ça, un peu, je pense.
Donc bleu, le bleu comme ça, c'est le bleu de votre pull qui est un bleu ciel.
Qui est un
vraiment
peu le bleu de
ciel.
Mon album.
En 2 ans, entre le premier album et Les Failles, le deuxième album qui est sorti donc début novembre, est-ce que votre rapport à la musique, à la façon dont vous composez et dont vous chantez a changé?
Oui, complètement. Ça a beaucoup changé parce que mon rapport à moi a changé aussi et que j'ai grandi et que je me suis vachement émancipée et que du coup, je pense que je me suis émancipée dans la composition et dans la création là où avant je savais pas trop ce que je voulais faire et du coup c'est un espèce de climat en fait, c'est que pour le premier album je savais pas exactement où je voulais aller, je me laissais vachement plus guider et donc j'étais vachement moins maîtresse de ma création, tandis que pour le deuxième album je suis partie m'isoler pendant 2 semaines en Bourgogne et j'ai écrit tout l'album là-bas toute seule, écrit et composé, et j'ai écouté aucune musique pour ne pas être influencée et j'ai été dans cette espèce de d'optique de voilà de liberté totale de sortir des cases de en tout cas de voir ce que ça allait donner si je me souciais pas de ce que les gens pensaient de ma musique quoi.
Il est plus intime cet album là, les failles, anxiété, je sais pas danser, on sent que vous révélez aussi des choses qui sont personnelles.
Oui, je pense qu'il me ressemble vachement plus, en tout cas je pense qu'il est très vrai dans l'instant où je l'ai écrit et même dans non il est ouais, je pense qu'il est beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère et beaucoup plus brut en tout cas.
Et en même temps, vous avez été chercher la collaboration pour la réalisation d'un chanteur confirmé, Albin de la Simone. Qu'est-ce que ça vous apportait un peu d'être, comment dire, soutenu, un peu de renforcement?
Bah oui, moi j'ai des compétences, je peux écrire des chansons, je peux composer des chansons, je peux avoir des idées d'arrangement, mais j'ai pas les compétences techniques ni l'expérience d'Albin. Et voilà, il a apporté tout un savoir, tout un tas de connaissances que j'ai pas forcément. Et du coup, à nous deux, voilà, on a créé une espèce de tambouille qu'est l'album.
À la fois intime et universel, à la fois sombre, parce qu'il y a pas mal de chansons qui évoquent la mort, comme d'ailleurs sur le premier album,
ouais.
Et la lumière, il y a une chanson qui s'appelle La Lumière, oui. Une autre qui s'appelle Soleil, Soleil. Là aussi, il aurait quoi comme couleur cet album, comme tonalité générale?
Bah, il y a cette citation de Leonard Cohen qui dit, c'est dans une chanson où il dit que dans chaque chose, il y a une faille et que c'est comme ça qu'entre la lumière. Moi, je savais pas que cette chanson, elle existait et quelqu'un m'en a parlé. C'est Gaëtan Roussel, d'ailleurs, qui m'en a parlé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que j'avais tenté de dire avec cet album, que voilà, qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, qu'on a tous un peu des failles et tout, et que c'est pas facile d'en parler parce que c'est pas très valorisé, en fait, dans la société.
C'est comme la fatigue pour les artistes.
Exactement. La fatigue, les problèmes de santé mentale, toutes ces choses qui sont des choses super importantes, qui sont un peu la base, mais qu'on n'aborde jamais parce que ça ne fait pas rêver les gens. Et que dans les médias, il faut tout le temps faire rêver les gens. Mais en même temps, de ça, je ne voulais pas plomber les gens avec ça. Je voulais justement en sortir du beau aussi et réussir à faire de ces failles-là quelque chose de positif. Et le premier truc, ça a été que moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'écrire ces chansons-là. Et donc, c'était cette démarche-là de sortir des choses qui sont pas évidentes et d'en retirer du positif, quoi.
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil.
Soleil, soleil. Mais il y a aussi une chanson sur les séquoias, pommes, qui parle de la nature. On retrouve Pomme, Claire Pommet, notre invitée de ce matin. On la retrouve non pas dans les studios de la Maison de la Radio, mais dans son studio d'enregistrement où elle répète en ce moment, avant de partir en tournée dans toute la France. On vous a quitté il y a 2 minutes, Pomme, à propos de cette chanson qui parle des séquoias, des arbres, donc des grands arbres, des séquoias, et peut-être d'un rapport à la nature, parce que il me semble aussi que peut-être à la différence de certains de vos petits camarades, vous avez aujourd'hui, vous, une conscience politique. Peut-être pas aiguë, mais enfin une vraie conscience politique. On parle de vous comme d'une militante LGBT, de vos prises de position contre le sexisme.
C'est un peu exagéré,
voilà, c'est ce que j'ai lu, c'est pour ça que je mets des tas de guillemets. Mais voilà, parlons de cet engagement pour le monde, on va dire.
Mais c'est juste que moi, je trouve que... Enfin, comment expliquer ça? C'est compliqué parce que c'est tellement des choses qui sont naturelle et évidente pour moi que je trouve ça hyper agaçant que tout le monde soit là en mode ouais les militants nanana et tout, parce que en fait pour moi tout le monde devrait avoir cette conscience là. Je vois pas comment les gens peuvent ignorer ça, en fait. Ça me sidère un peu que les gens ils se foutent complètement de la planète, que les gens ils soient homophobes, que les gens ils soient sexistes et tout. Je trouve que c'est complètement archaïque, en fait. J'ai l'impression parfois d'être au Moyen-Âge. Mais du coup, moi, c'est pas du tout du militantisme. C'est juste que c'est tellement, pour moi, naturel que, voilà, je pense pour plein de gens. Il y a plein de gens qui comprennent ça, mais c'est juste que je crois que les médias, encore une fois, ont besoin d'appeler ça du militantisme pour que les gens puissent me ranger dans la case des artistes militantes et que ça soit plus simple à définir, quoi. Mais en fait, c'est juste que je trouve que c'est important et je trouve que, quitte à avoir une voix dans les médias, autant parler de choses intelligentes et pas que de... Voilà, mon album, c'est important, mais il y a des choses plus importantes aussi, quoi.
Mais maintenant, vous dites voix dans les médias. Moi, je pense voix comme chanteuse, comme autrice, compositrice, interprète, c'est-à-dire peut-être utiliser la chanson pour véhiculer un certain nombre de choses. Ce que vos aînés, pour le coup, fut un temps où la chanson était... Vous parliez de John Baez tout à l'heure. Oui. On pourrait parler, je sais pas, de Maxime Le Forestier, de Yves Montand, de plein d'autres comme ça. Fut un temps où on utilisait la chanson justement pour faire passer des messages.
Je pense que la chanson contestataire. Oui,
je pense que... Est-ce que vous voyez comme ça aussi?
En fait, je pense qu'en parlant de ma vie, qui n'est pas forcément la norme, en fait, quand j'écris des chansons sur ma vie, quand j'écris des chansons sur des histoires d'amour avec des filles ou que j'écris des chansons sur l'anxiété et tout... Peut-être que du coup ça sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais ça veut pas dire que ça veut pas. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est juste que c'est. J'ai l'impression que les gens osent pas parler de ces sujets-là, mais moi je vais pas raconter des histoires qui sont pas mes histoires. Moi je vais juste raconter les histoires qui parlent de ma vie en fait. Et du coup, oui, c'est des histoires. C'est pas des histoires d'amour avec des garçons, c'est des histoires d'amour avec des filles. Mais du coup, c'est juste, je modifie pas la réalité en fait. Ça n'a aucune forme de. Pour moi, c'est pas du tout du militantisme. Quoi, c'est. Faire l'inverse, ce serait cacher du coup mon identité un peu, ce serait bizarre quoi.
Mais la chanson du coup, dans ce contexte-là, la chanson et donc les textes que vous écrivez, Pomme, c'est dans quel objectif pour vous? C'est divertir, c'est émouvoir, c'est réveiller les consciences, c'est tout ça à la fois? La chanson, elle est globale, la musique, elle est globale, elle a un rôle particulier?
Je crois que la première fonction des chansons, c'est moi de me faire du bien.
Ce qui n'est pas négligeable.
Ce qui est le premier truc depuis le début, c'est voilà, écrire des chansons sur des thèmes, des choses qui m'interpellent et tout. Et ensuite, oui, je pense que j'ai un peu envie que ça aille résonner chez les gens et que si ça peut leur provoquer des émotions et que ça peut leur faire du bien, voilà, j'ai envie de moi de me faire du bien et que les gens, ça leur fasse du bien aussi, quoi. J'ai pas forcément dans la prétention à avoir d'autres buts avec cet album ou avec la musique que je fais. Vraiment, en premier lieu, c'est assez égoïstement écrire des chansons pour me faire du bien. Ça me soulage, en fait, juste.
Et là, donc, par exemple, vous vous êtes levé, là, on est dans votre studio d'enregistrement, vous vous êtes levé du canapé, vous avez pris votre guitare. Mm-hmm. Ça veut dire que vous avez envie de vous faire du bien, là, ou de nous faire du bien en même temps, ce serait très sympathique.
Pourquoi pas.
Si vous avez la guitare dans la main, c'est peut-être que vous avez l'intention de nous jouer quelque chose, oui. Alors là, ce serait magique.
Mais qu'est-ce qu'il faut jouer, alors?
Il n'y a pas très très longtemps, vous avez fait un petit concert, un mini-concert, dans une petite, toute petite salle pour un tout petit public. Vous avez fait une chanson dont vous vous souvenez plus... Vraiment, oui. Des paroles. Et en fait, si, vous vous en souveniez très bien. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je m'en souviens. Ouais, je vais faire un bout chouette. Alors.
Ouais.
Le début.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main. Dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oh, oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Amoureux, sans peur.
Un grand merci, Pomme, pour cette reprise. Françoise Hardy, tous les garçons et les filles. Toute une époque, me disait déjà Laurent Geoffrin, qui vient de s'asseoir dans le studio.